midagi nädagi nännake, hibadi kobadi kokku mingu, midagi nädagi nätta tulgu, taevas tulgu sisse mingu, ümmer männa mitsa matsa, leiva peale litsa latsa.
Radio Espirulque 11.8, l'émission Rommelpot en compagnie ce soir de Régis Dujardin, un ami et en plus le président de la Saint-Sébastien des Archers de Cassel. Bienvenue dans le studio, Régis.
Eh bien, merci de m'avoir accueilli.
Mais c'est un grand plaisir, c'est celui de Isol qui me dit « Écoute, Régis, c'est magnifique ce qu'il fait, les herbetriers sont des amis, eh bien on va les mettre à l'honneur sur les ondes de Radio Espirulque ». Qu'une radio entre autres de Cassel, et rien de plus normal que tu sois ici à notre table. Comment tu arrives à devenir le président et depuis combien de temps?
Moi je suis arrivé aux archers de Cassel en 1900.
Par hasard? Non.
Non, pas par hasard. J'avais un copain qui s'appelait Luc Decolle, malheureusement décédé depuis 28 ans. Ouais. Et il m'a dit viens essayer le tir à l'arc. Bon, et c'était en 77.
Ah oui, ça c'est pas d'hier alors.
Oui, j'attaque ma 49e année.
Oui, non.
Donc et à l'époque il fallait être parrainé pour pouvoir entrer à la société de Cassel.
Ah oui, encore aujourd'hui ou...
Non, plus maintenant. Maintenant on ne peut plus faire de discrimination, on doit automatiquement accepter, oui et non, mais...
T'as quand même le pouvoir si les gens vont un peu...
Oui. S'ils sont dans les clous...
S'ils déraillent...
S'ils sont dans les clous, c'est bon. S'ils sont pas dans les clous, vous allez voir ailleurs si c'est mieux. Si c'est mieux, oui. Mais non, sinon, à l'époque, c'était comment dire, c'était différent que maintenant.
Peut-être réglementé d'une certaine façon.
C'est réglementé. C'est toujours réglementé actuellement. Hein.
Ouais.
Il y a toujours, évidemment, pour rentrer dans la société, il faut faire sa demande.
Ouais.
Lettre écrite au président. Et après, quand on a une réunion en début d'année, c'est souvent notre assemblée générale se fait au mois de janvier. Mmh. Et c'est là qu'on fait des propositions.
Et il y a les membres du CE peuvent dire non, on n'a pas envie ou non, ça se fait pas.
Ça se fait plus. Ça se fait plus parce qu'avant on passait au vote. Hein.
Ah oui.
On passait au vote à l'époque. Hein. Il y avait toujours autant de présents et tu faisais ta lettre, on passe au vote et tu avais toujours un ou deux noms dedans dans la communauté. Mmh.
Quand on rejoint les archers de la Saint-Sébastien de Cassel, il y a du matériel à acheter. Bien sûr, un arc et des flèches. Ça a un certain coût. Il y a aussi peut-être une exigence par rapport au matériel qu'on veut utiliser ou qu'on peut utiliser.
Oui, mais nous, à Cassel, on a des arcs. La société a acheté des arcs.
Ouais.
Grâce aux subventions de la mairie, on est dit qu'on va investir des arcs.
Qu'on peut aussi remercier au passage.
Tout à fait. Je le remercierai jamais assez. Le maire actuel.
Dominique Joly. On peut le nommer.
Oui, tout à fait. Donc, on a acheté du matériel, aussi bien pour les jeunes que pour les plus âgés. D'ailleurs, dernièrement, il y a quelqu'un qui est rentré à la société, donc que tout le monde connaît, Eric Bouve. Il a pris sa retraite et il vient de rentrer dans la société et on lui a prêté un arc. Donc,
c'est pour lui permettre d'essayer de voir si ça lui convient et puis peut-être par la suite qu'il achète son propre matériel. Je vais y arriver.
Tout à fait, c'est ça. Parce que on se dit, tiens, je veux essayer le tir à l'arc. Ouais, c'est sûr, mais c'est des contraintes. Hein. Le tir à l'arc, tu deviens archer comme ça par hasard, hein, parce que t'en as envie. Mais au bout que d'un certain temps ou d'un certain nombre de tirs, tu te dis, ça me plaît plus. Et tiens, j'ai acheté un arc, ça vaut une certaine somme. Hein. C'est, les arcs, actuellement, pour un enfant de... ça varie de 100 euros, mais les plus gros, c'est 1500.
Hein. Ah ouais, quand même.
Ah oui, il y a quand
des
même...
Des arcs en carbone,
tout à fait, ouais, avec des lattes en carbone. Hein, donc, et puis, bon, c'est l'évolution technique. Hein,
oui.
Au début, on a commencé avec des arcs en fibre de verre. Les anciens commençaient avec des arcs en bois. Et puis, il y avait même des marchands d'arcs en bois quand ils allaient sur les terrains, parce que tu cassais l'arc.
D'accord.
Donc il fallait le remplacer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas aussi démocratique que maintenant. Hein.
Ouais. Pour les enfants, je suppose que l'arc par lui-même, il est moins puissant.
Oui, c'est un arc de 8 kilos.
Pour le bandé, en fait.
Pour le bandé, avec des flèches en carbone de 5 mm. Mais ils arrivent aussi bien en haut de la perche,
ouais,
qu'un adulte. Hein. Et tout dépend de la puissance de l'arc. Aussi bien pour les jeunes, pour les femmes, pour les anciens.
Pour les enfants, à partir de quel âge, décemment, ils peuvent rentrer dans les archers? Une dizaine d'années?
Avant, il y en a. Avant, nous, à Cassel, on a la chance d'avoir le plus jeune, je crois que c'est 5 ans.
Ah oui?
Et le plus âgé, c'est 87 ans.
Ah, ça fait une...
Ça fait quand même une belle marge.
Tout à fait. Revelpot, c'est la rencontre avec un ami, mais c'est aussi de la musique. Et on va partir en musique avec Décibal. Et là, c'est spécialement pour David Roblin, qui est un homme formidable qui s'occupe du festival Le Son Continu, qui malheureusement, avec la canicule, a été annulé cette année. Mais ce n'est que partie remise. Thank you. quelques transports, l'émission Rommel Pot, un rendez-vous tous les troisièmes mardis du mois en direct. Et ce soir en compagnie du, je vais dire, le président. On dit président?
Non, ouais.
Le chef de la guilde?
Non, les gens, ils étaient président, ouais, président. C'est ça, président.
Régis du Jardin, les archers de la Saint-Sébastien de Cassel. Et c'était important de l'inviter pour connaître nos traditions, ou mieux connaître nos traditions locales. Ces archers, par eux-mêmes, ils n'arrivent pas par hasard, parce qu'au début, ils ont un rôle de défense de la cité.
Ah, tout à fait, tout à fait. Au départ, quand la société a été créée en 1446, si mes souvenirs sont bons, oui, c'est ça, tout à fait, 1446.
D'après ce que j'ai regardé, c'est ça.
Et après, elle a été validée par le... Il faut que je prenne une petite note. Hein. Elle a été validée par le... par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, comte des Flandres et seigneur de Cassel en 1448, deux ans après. Donc, mais au départ, la société des archers, enfin la guilde des archers, était là pour défendre la ville.
La ville.
Et puis, ils avaient des privilèges, comme genre une exonération d'impôts. Ils avaient des privilèges.
C'était une milice communale, d'une certaine façon.
C'était une milice, tout à fait. Et quand il y avait des conflits, parce que je suppose qu'il y en avait pas mal ici dans le coin.
Mais on est quand même sur une terre d'invasion.
Ouais.
Et puis, en plus, on surmontait toute la plaine.
Et la milice, elle servait aussi pour défendre le seigneur et puis toutes les terres à côté. Hein.
Et tu dis qu'ils avaient donc des privilèges par rapport à
ça. Oui, ils avaient des privilèges. Ils avaient des privilèges au niveau des impôts, je pense. Si les impôts existaient déjà à l'époque.
Ouais, un peu comme les guildes des bouchers, toutes les guildes en fait, parce que tous les artisans étaient en guilde.
Ouais.
À l'époque où il y avait ce qu'on appelle les libertés communales.
Mais là c'était vraiment des... l'arc c'était une arme, il n'y avait pas de pistolet ou quoi que ce soit. Donc ouais. C'était le...
Peut-être... Donc ils se postaient sur les remparts,
ils étaient sur les remparts. Et puis après, en bas des remparts, en bas de Cassel, anciennement, il y avait un terrain d'entraînement. Et ils s'entraînaient aussi bien à l'horizontale sur des cibles que
à la verticale.
À la verticale.
C'est propre aux archers.
La verticale. Ouais, c'est vraiment propre aux archers belges, hollandais et français.
Ouais, c'est ce que l'on pourrait appeler les grands pays bocaux, d'une certaine façon.
Tout à fait, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que les... On voit nulle part ça ailleurs. Si, il y a des copains justement qui reviennent du Canada et ils ont été inaugurés les 100 ans d'une société canadienne avec une perche à la verticale.
Ah ouais. Et alors, ce sont des Flamands qui se sont exportés là-bas, qui se sont expatriés.
Ouais, c'est des Flamands parce qu'ils parlaient flamand, ils parlaient anglais, ils parlaient canadien évidemment, puisque à l'époque, puisque 100 ans, et il y en a qui parlaient français.
Ouais. Ces archers, par eux-mêmes, on dit qu'ils défendaient la cité, mais l'ennemi, à l'époque, c'était qui?
Les Anglais, évidemment. Ils n'avaient pas 36, hein. Les Anglais.
Tu penses qu'ils ont eu un rôle lors de ce qu'on a appelé la guerre de 100 ans?
Ah bah oui. Oui, la guerre de 100 ans. Les archers, ils étaient là quand même, hein. C'est eux qui... qui était là pour défendre.
Partie prenante de la défense.
Je crois.
Puisqu'on parle un peu de ces moments de guerre, je vais te faire écouter. Et justement, ça tombe bien, parce que ce sont des Québécois, ce sont les frères Lemay, que j'ai rencontrés un jour au Hotline de Baume Festival, à Lune Plage. Et ils racontent en fait toute l'histoire de la Première Guerre mondiale, où les Anglais venaient ici, mais en fait, ils auraient voulu boire de la bière, des flamins, comme ils disent, et ils n'ont pas pu parce que malheureusement, c'était une des premières boucheries européennes.
Tout à fait, ouais.
Les frères Lemay.
les yeux fermés, s'en retourne auprès cet endroit qu'il a vu grandir. Se rappelle l'odeur des matins, son plus beau souvenir, la voit encore main dans la main. Quand elle avait dit oui, je te marie si tu reviens. Tous ceux de 22 ans l'ont dit, part pour la mer vers la frontière entre Bayel et Hoverland. Jour et nuit, un seul ordre du caporal Pearson.
Dig, 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 diggera,
le troisième régiment.
Dig, 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 diggera,
dans la cour des Flamands.
Si tu dig, 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 digga pas,
y'a le sergent qui t'attend. Réponds à l'appel, à grands coups de pelle au grand jour, dans la mire des Allemands. Ils sont repoussés à l'épaule, les empêcher de retraverser la France. Voilà ce qu'ils veulent. En mars, avril, 16 000 morts. Mais qui donc a compté les corps? Son chum Joe Spinks est pourvenu, et le gros Québécois non plus. Toujours là à creuser, dis-moi que la Flandre est ta mère, les mains usées dans la tranchée, même pas le temps de goûter la bonne bière.
Dig, 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 diggera,
le troisième régiment.
Dig, 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 diggera,
dans la cour des Flamands.
Si tu dig, 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 digga pas,
y'a le sergent qui t'attend. Réponds à l'appel, la grand coup de pelle au grand jour.
L'émission Revolpote en compagnie de Régis Dujardin, et nous parlons ce soir des archers de Cassel. Ces archers, par eux-mêmes, à l'origine, ils avaient une sorte d'uniforme, ils avaient une tunique, ils avaient quelque chose.
Bah, là, franchement, j'aurais du mal à te répondre à l'époque. Je suppose qu'ils avaient des...
Parce que tu m'as parlé, hors antenne, que la société, elle avait... des vieilles affiches, donc
oui.
Est-ce qu'il y a des traces qui nous permettent de dire.
Mais allez, la dernière, la plus vieille affiche qu'on a, c'est 1878. Mais les archers, on a des photos, mais les archers, ils étaient en costume cravate.
Ouais, c'était obligatoire.
Obligatoire, pied de la perche, costume, cravate. Donc, et quand ils étaient au pied de la perche, et s'ils abattaient un oiseau, t'avais un gars avec un tambour, et puis qui jouait un... Dès qu'il y avait un oiseau d'abattu, il faisait pas une ritournelle, mais...
il faisait un signal sonore.
Un signal sonore. Et après, t'avais aussi un gars qui avec un grand chapeau de paille,
ouais,
qui ramassait les flèches.
Ah oui. Chapeau de paille pour se protéger.
Qui protégeait les épaules. Et moi, quand je suis arrivé à la société, c'était Mimi. Mimi Hugues, le père de Ziguilette.
Non.
C'était lui qui s'occupait de la perche parce qu'il habitait juste en face.
Ah ouais.
C'était le terrain. C'est le terrain, monsieur Pirins.
Ouais. À l'époque, Bun. Et Saint-Sébastien.
Saint-Sébastien, c'était chez Bun. Non, ouais. C'était chez Decorte avant l'époque, le marchand, ouais, de charbon.
D'accord, moi j'ai connu tenu par Bun.
Ouais, t'as connu par Bun. Moi j'ai connu, quand je suis arrivé, c'était le père à Claude Decorte qui était secrétaire de la société à l'époque. Et le président à l'époque, c'était Marius. Non, c'était. Ouais, c'était Marius. C'était Marius en peine qui avait remplacé M. Pirins, le brasseur, le grand-père à Stéphane Lourme.
D'accord, ah oui.
Et, okay. Et la perche était sur leur terrain. Mais c'est vrai qu'avec l'évolution du matériel, et bon, j'avais une tante qui habitait justement dans la rue de Berg. Et puis au début, quand on tire à l'arc, bon, bah, c'est... Il y avait des flèches perdues. Bon, une fois que tu la lances en l'air, tu ne sais pas où est-ce qu'elle va atterrir. Et elle atterrit souvent dans les toits, dans les tuiles. Et puis,
ça cassait des tuiles.
Si on ne les prévenait pas, il y avait des fuites.
Ouais.
Donc, il y avait des conflits dans le voisinage. À un moment donné, souvent, moi, j'ai lancé des flèches dans sa cour ou bien sur son toit. Et puis, elle me les rendait. Hein, c'était ma tante, c'est normal.
Ah, et c'était marqué. Une histoire de famille.
Casseur de flèches. Casseur de tuiles.
Ah, ouais.
Et puis après, on a déménagé en 81. On est sur le stade. Mais le stade, c'était un terrain. Il y avait de la terre à porter, c'était de la clite.
Ouais.
Donc, pas praticable pendant 2 ans. Quand on organisait un tir, on avait les sociétés de Bavakov, d'Arnec, qui nous prêtaient leur terrain.
Il y a une bonne entente, justement, entre ces sociétés.
Ah oui, il y a toujours une très bonne entente entre les sociétés.
Ouais. Je voudrais qu'on décrive la flèche, parce que je pense que dans l'imaginaire des gens, on parle de défense de rempart, on parle de défense de cité. Il s'imagine qu'il y a une pointe sur cette flèche.
Ah ouais,
absolument pas.
Absolument pas. C'est une flèche qui fait... Allez, on va dire en général... au début, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait que des flèches en bois.
Ouais.
Donc, elles étaient coniques au bout. Et puis, elles avaient un bout plat en corne pour abattre l'oiseau qui était embroché sur
le... Ce que tu appelles l'oiseau, préciser que ce n'est pas un oiseau.
C'est ce qu'on appelle
un papegaie.
Ouais, non, c'est même pas ça. Un oiseau, on appelle ça, c'est un bloc de bois qui fait 2 cm de diamètre sur 4 cm de long et avec un trou au milieu pour pouvoir l'embrocher sur la grille. La grille, c'est ce qui est en haut du mât de la perche, quoi. Une perche, ça fait 30 mètres à peu près. Celle de Cassel, elle fait 29 mètres 50.
Et sur cette perche, il y a différents niveaux. Et par rapport au tir,
ouais,
c'est Lucio qui m'a parlé de ça l'autre jour.
Ouais, tout à fait.
Il y a celui d'en haut, il y a celui du milieu, mais il y a un nom bien précis.
Oui, tout en haut, c'est l'honneur.
Oui.
Il n'y en a qu'un, c'est l'honneur. Ensuite, on descend au niveau inférieur. Le niveau en dessous, c'est supérieur.
Ouais.
Le niveau encore en dessous, c'est l'intermédiaire. Le niveau en dessous, c'est l'inférieur. Et après... C'est les grilles. C'est comme des râteaux. Hein.
Ouais,
avec tous des pointes et puis on met les oiseaux dessus. Mais c'est vrai que le tir à l'arc, en France, le matin, tu as un tir aux honneurs.
D'accord.
Le tir aux honneurs, tu n'as que l'honneur, les supérieurs, l'intermédiaire et les inférieurs.
Donc, tir à l'arc, il n'y a que celui du qui est complètement en haut.
Il y en a 7. 3 de chaque côté, plus l'honneur.
D'accord.
Et il faut... Il faut les abattre, c'est ça. Et puis c'est les tirs, on appelle ça les tirs aux honneurs le matin. Ça commence à 9h30 jusqu'à 12h30, 13h. Quoi.
La météo, par elle-même, elle est importante dans ces tirs à l'arc? Puisque je pense qu'il y a une incidence avec le vent, par exemple.
Mais les archers savent jouer avec le vent.
Ah.
S'il n'y a pas de vent. On n'est pas si con que ça.
J'ai même pas pensé.
Le vent, et bien souvent, quand il y a du vent, on abat plus que quand il n'y en a pas.
Ah bon?
Parce que le vent fait travailler ta flèche et elle fait abattre un oiseau.
On sait dire la puissance en km/h de ces flèches quand on bande son arc? On ne sait pas dire ça?
Non, je sais pas.
Ça va être puissant quand même.
Oui, mais chaque archer a une puissance d'arc qui est différente d'un autre.
D'accord.
Donc,
Par exemple, il faut plus de force avec un arc qui est, pour le bander, qui est plus costaud.
Bah, au départ, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, j'avais un arc de 25 kilos. Mais bien souvent,
Mais t'es toujours jeune, Régis.
Oui. C'est tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que on joue sur une longueur de flèche. La puissance d'un arc est basée sur une flèche de 72 cm. Et tout ce qui dépasse 72, c'est 500 grammes par centimètre. Donc tous les 2 cm, c'est 1 kg. Donc le gars qui tire un arc de 25 kg, il va tirer une flèche de 80. Tu fais le calcul, ça fait presque 35 kg quoi, qu'il
monte. Ah ouais. C'est important.
Ouais.
Qu'est-ce que t'éprouves, toi, quand t'es en bas de cette perche que tu vises?
Ah ben, quand on est en bas d'une perche, on se concentre.
Ouais.
Tous les archers se concentrent.
C'est important.
Ouais, la concentration, c'est important. Après, tu regardes le vent, tu regardes un peu tout. Et ben, t'essayes de faire... Parce que quand t'as ton arc dans tes mains, tu tires pas pour quelqu'un d'autre. Hein. Tu tires,
non,
surtout le matin, tu tires pour toi. Mais, enfin, tu tires pour... C'est personnel, mais c'est aussi en équipe parce que.
Il y a l'honneur qui rentre en jeu?
Non.
Non.
On est content d'abattre. Parce que, sauf. On tire toujours en équipe. Enfin, du moins, moi. Il y en a qui sont plus ou moins individuels. Moi, je suis là. Je fais partie d'une équipe. J'ai jamais été au tir à l'arc et tiré tout seul.
Non.
J'ai toujours rencontré quelqu'un.
Un sport de groupe.
C'est un sport de groupe et c'est un sport collectif. Et puis, quand il y a un copain qui abat, on est content pour lui. Et quand c'est nous qui abattons, il est content pour nous. Et c'est une grande famille. C'est une très grande famille.
Ça, c'est important.
C'est une très grande famille.
C'est ce que tu recherches aussi dans ce sport.
Ah oui. Disons que moi, ça fait 49 ans que j'y suis. Et... Quand je vais au tir à l'arc, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles.
Ça vide la tête?
Ah oui, tu penses à rien d'autre. Tu penses à rien d'autre. T'es content de voir les copains?
Je serais tenté de dire que c'est pour toi et pour d'autres archers une forme de thérapie.
Oh, thérapie, je sais pas si c'est vraiment une thérapie, mais je sais que ça fait plaisir de voir les amis.
Ça te donne le sourire en tous les cas.
Ouais, ça fait plaisir. Et puis, tous les archers maintenant, on se fait tous la bise. Presque tous. C'est une marque de confiance, d'amitié, de... Je vais pas dire d'amour, hein. Mais
la différence, ça, d'amour.
Oui,
hein.
Tout à fait. Mais c'est parce qu'on est tous là en osmose. Parce qu'on aime ça.
Ouais.
On aime ce truc-là.
Avant de repartir en musique, j'aurais posé une question. Cette perche qui était Rudberg.
Oui.
Et parti où? Vous l'avez vendu?
Oui, on l'a vendu parce que en 91, j'ai eu Marius à l'époque. Et puis la perche, elle commence, c'était un peu dur à basculer. Et je me suis lancé, j'ai dit, je vais en faire une.
Ah oui?
Ouais.
Celle qui est actuellement?
Oui, c'est celle qui est actuellement. Je l'ai fait.
Tu l'as faite de tes mains?
Oui. Oui.
Bah, t'as des talents de soudeur ou quoi?
Fait. Ouais, et puis après, il y avait... Et moi, j'ai fait la perche. Et Francis et Marie-Pierre Bélingue.
Ouais.
Malheureusement,
Francis, on va en parler.
C'est eux qui l'ont peinte.
Ah bah dis donc.
Et cette perche, et l'ancienne perche est partie à Éperlec-le-Sar, au pied du blocos.
Du blocos d'Éperlec.
Du blocos, là où est-ce qu'il y avait... Ouais, du blocos d'Éperlec, ouais.
Bah dis donc, c'est une belle...
Et cette perche, elle datait de 1900, un truc comme ça, ah ouais. Dans ces eaux-là. Hein. C'est une tour Eiffel, quoi.
Bah oui.
Le pied, c'est une tour Eiffel, et pas soudée, hein.
Riftée. Ouais, donc c'est riftée. Vraiment une tour Eiffel.
Mais elle est vraiment... Mais elle avait on avait un mal fou, là. Je me rappelle la première fois que j'ai basculé cette perche,
Elle devait être lourde.
Elle était lourde. Et on m'a dit, tiens, c'était le 1er mai 77, donc premier tir. Et tu vois, je bascule la perche. Mais j'ai pas fait gaffe, je l'ai lancé, mais après, il fallait les retenir.
Ah bah,
j'ai eu les mains brûlées. Wow. c'est des souvenirs qui me reviennent à l'esprit, ça.
On va repartir en musique avec un groupe qu'on affectionne beaucoup sur Radio Spiegel, c'est les Dunkerkers. Et puis, comme par hasard, c'est Jan de Mulder, Jean le Meunier.
Jan de Mulder, mais il n'a rien que de l'exilé le broken man. Sous de soheren, sous de lanteren, sous de soheren de Vienhan. Il is a flesh and all is a fish, and all is a manneken pis. Flesh and a fish, a manneken pis, and all is den vogel die bedriegen ik is. Jan de Mulder met zijn leren kuller en zijn leren broek en hand. Zo de zoveren, zonder anteren, zo de zoveren te vrien aan. Hier is het flesch en daar is het wisch, en daar is het mannekenvis. Fresh en de wisch, mannekenvis, en daar is het voor die bedriegelijk is. Jan de Mulder met zijn leren kuller en zijn leren broeken aan. Zo de zogeren, zonder anteren, zo de zogeren te vrien aan. Daar is de zon en daar is de man, en daar is de kraaien den haan. De zon en de man, de kraaien den haan. En daar is den boer die bedriegen gelijk en daar is de kan, en daar is de
dronken Jan.
Glas en de kan, de dronken Jan, en daar is de boven die bedriegelijk is.
Troisième mardi du mois, et ce soir, c'est en compagnie de notre ami Régis Dujardin, qui est le président des archers de la Saint-Sébastien de Cassel. Régis, j'ai un souvenir, un très très bon souvenir, et tu vas t'en rappeler, j'en suis certain. C'est le jour où j'ai réussi à faire venir Jérôme Pitiron de Échappée Belle, et qui est venu filmer.
Ah oui, tout à fait.
Au stade.
Tout à fait.
Ça a été un grand moment, là.
J'ai eu des échos parce que ce moment-là, j'étais à Béziers. Et il y avait Francis, il y avait Fed, il y avait toute l'équipe qui était là. Mmh. Et on était Marie-Pierre et quelques autres encore.
Je peux te dire, c'est passé le 23 avril 2023.
Le 23 avril ?
Ouais, il me semble. Je pourrais te... Enfin, c'est pas important.
Je devais être là alors. Parce qu'il y a eu aussi... Ah ouais, il y a eu une préparation. Mmh. Et puis après, ils ont fait une fête. C'était au mois de septembre.
Ouais.
Quand ils sont revenus avec la dame du d'Échappée Belle. Je crois que c'était ça.
Ouais. T'étais là.
J'étais là.
Ouais, sûr et certain.
Moi, je me rappelle de.
Sûr et certain, puisqu'il y a encore fait avec son air que. Qui montre à Jérôme comment il doit arriver à bander l'arc.
Ah oui, je suis en train de confondre un petit peu.
Il faisait un temps un peu pas terrible, d'ailleurs.
C'est vrai qu'on a quand même eu, et on a quand même fait tirer à l'arc Stéphane Bern. Hein.
Ouais, je suis pas étonné. Il doit se prêter à...
Ah ouais, mais c'est pas un truc, il a pas apprécié, d'après ce que j'ai pu comprendre l'interview qu'il y a eu le lendemain, il a pas trop apprécié. Il devait avoir là son épaule, parce qu'il savait pas s'il était droitier ou gaucher alors qu'il était gaucher.
Ouais.
Mais sinon, c'était l'année en 2018, hein, l'année où Cassel a gagné. Hein, donc, c'était quelque chose de formidable.
Nous sommes des gagnants.
Bah non, on n'est pas des losers, nous. Hein, non, on est des gagnants.
Non, de tout. Je voudrais qu'on évoque, et c'est important, un ami commun, c'est Francis.
Ah oui, tout à fait. Francis,
qui, d'après ce que tu disais tout à l'heure, il a fait avec Marie-Vierre, puisqu'il était indissociable, un travail formidable au niveau des archers.
Tout à fait. Francis, il est rentré dans la société, je crois que c'était en 1985 ou 86. J'ai plus l'année vraiment en tête. Je m'en rappelle, moi j'habitais à Saint-Sylvestre à l'époque, et puis il était carreleur. Hein, c'était un ouvrier formidable, et puis j'avais demandé qu'il carrelait ma maison. Et puis il dit, qu'est-ce que tu fais en ton nom? Moi je vais au tir à l'arc. Hein. Ah ouais, et puis
il a voulu voir,
et comme c'était un chasseur, donc automatiquement un chasseur c'est plus ou moins bien visé.
Bah oui.
Et Francis c'était un cas, lui, hein. C'était, il a quand même été empereur, hein.
Il n'est pas
empereur qui veut, hein.
Non,
il faut battre les 84 autres
copains qui sont là avant,
hein.
Ouais.
Ouais, c'était à Bayeul, je m'en souviens, ça.
Dans la société aujourd'hui, une femme a la possibilité d'y rentrer, alors que c'était pas le cas avant.
Ah, tout à fait. Avant, c'était vraiment sectaire. Avant, c'était des notables. Et la preuve, c'est que il y avait tir que le dimanche après-midi et le lundi, parce que c'était tous des commerçants. Le samedi, il n'y avait pas tir.
D'accord.
Donc, les commerçants arrêtaient, comme Marius. Marius était bouché. Marius Ampen, notre ancien président, était bouché, donc il arrêtait le. Il arrêtait à midi, à 3h, ils prenaient notre ami Coco de Nice, le coiffeur de la place, et ils allaient au tir.
Célèbre Coco.
Ils allaient au tir, et le lundi, c'était pareil, parce qu'ils avaient congé. Et heureusement que ça s'est démocratisé un petit peu. Après, il y a eu les tirs le samedi, le dimanche, et maintenant, il y en a un peu moins le lundi.
Ouais. Et le fait que ce soit le dimanche après-midi, c'est peut-être pour préserver le fait d'aller à la messe le dimanche matin?
Ça, je sais pas, peut-être à la rigueur. À l'époque, c'était vraiment, c'est vrai que quand il y avait la fête patronale, la Saint-Sébastien le 21 janvier, il y avait le banquet, et avant le banquet, il y avait l'apéro chez un sociétaire. Et les sociétaires, il y en a au moins tous un ou deux qui tenaient un bistrot. Donc on allait boire l'apéro.
Une forme de chapelle, quoi, comme pour le carnaval.
Ouais, mais c'était pas pareil. Là, c'était bien structuré, hein, parce que t'avais rendez-vous à 10h au café, et tu partais en cortège avec tambour en tête jusqu'à l'église avec le drapeau et tout. C'était quelque chose de structuré. On allait à la messe. Après la messe, on allait au monument aux morts. On mettait une gerbe. Et puis après, on allait au banquet.
Tu parles de drapeau. Ce drapeau, aujourd'hui, il est où?
Ce drapeau, il est parti au musée des archers à Watt. Parce qu'il était...
C'est une façon de le préserver?
Oui, je pense que... Et puis, au moins, les gens peuvent le voir. Parce que ce drapeau était chez moi. Et puis, en 94, on a eu un... Il y a eu une... au musée, il y a une exposition sur les archers. Et on avait prêté ce drapeau. Mais ce drapeau, il a pris l'humidité.
Ouais.
Et puis l'humidité, c'était pas... Il n'y a pas trop apprécié parce que c'était un drapeau qui a été peint. Il avait été peint en 48 par la femme du président à l'époque. C'était M. Joseph Pirens, le grand-père de Stéphane Lourme. Elle avait fait le drapeau. C'était un super beau drapeau. Mais après, il s'est filoché. C'était en soie. Il était quelque chose de superbe. J'ai eu souvent l'honneur de le porter. Parce que c'était un honneur de porter ce drapeau.
Je veux bien le croire.
Et puis après, j'ai décidé de le mettre au musée pour qu'il soit conservé dans une température correcte.
Ambiante.
De manière à ce qu'il perdure. Quoi. Sinon, il y aurait un jour ou l'autre, il aurait pourri. Et puis, c'est pas la peine. C'est pas le...
Vous pensez en refaire un avec des textures, on va dire, plus modernes?
On y a pensé à un moment donné, parce qu'on connaissait quelqu'un qui en faisait ça, mais après, vu le montant du...
Le coût
d'un drapeau, et puis ce qu'on veut, c'est ce qu'on voudrait, c'est parce que nous, sur notre drapeau, c'est la Saint-Sébastien.
Ouais.
C'est ce qu'on a sur nos assiettes quand on a fait le championnat de France, on avait la Saint-Sébastien sur nos assiettes. Quand on a fait des rencontres fédérales, on avait le Saint-Sébastien sur nos assiettes. Même sur nos t-shirts, on a le Saint-Sébastien avec Rose Papa et Rose Maman.
Justement, j'allais dire, vous avez des beaux t-shirts et des belles doudounes aussi.
Oui.
Qui sont de qualité, des couleurs rouges.
C'est ça, au moins on nous voit, quoi.
Ouais. Et truc formidable aussi, c'est les broderies que tu m'as montrées la dernière fois que je suis venu au stade, qui sont faites par la fédération.
Ça, c'est la fédération.
Très belle.
J'ai eu la chance d'être élu à la fédération pendant 24 ans. Et j'ai toujours le costume, puisque je suis membre honoraire. Donc, quand il y a des manifestations, des remises de médailles ou des diplômes de 50, 60 ou autre, je me fais un devoir de le porter, comme au dernier tir à Cassel, il y a eu les deux médailles de Vanessa et Gaëtan. Et là, samedi, il y a aussi une manifestation qui me tient à cœur, parce que c'est des copains, ça. Et c'est des gens de la société.
Si tu veux bien, on va repartir en musique avec Barguenat.
Thank you.
lancement de l'émission Rommelpote en compagnie de Régis Dujardin, qui est le président des archers de la Saint-Sébastien de Cassel. On parlait des femmes, et les femmes ont une très très grande importance à la Saint-Sébastien, puisqu'en fait ce sont les maîtres d'œuvre de la buvette, et elles font ça vraiment avec beaucoup de cœur et...
Ah ouais, tout à fait, parce que le matin elles sont là 9h moins de quart, ouais. Pour le tir qui commence à 9h30, donc il faut préparer les sandwichs. Bah, ils sont à trois. Il y a Guylaine, il y a Marie-Jeanne et puis il y a Brigitte en général. Ils s'entendent très très bien. Mais c'est vrai qu'ils sont là le matin, 9h moins de quart, et ils partent le soir une fois que tout est fini. Mais le soir, tu leur demandes de faire quelque chose, c'est fini. Elles ont mal aux jambes, toujours.
Ouais, entre guillemets, rincées.
Elles sont carrément rincées. Et elles sont debout. Pendant plus de 12 heures.
Elle tire aussi en même temps ?
Non, parce que Guylaine, elle tire. Marie-Jeanne, elle a arrêté de tirer. Et hop. Quand Joël il est parti, donc.
Mais elle est toujours présente.
Ah oui, elle est toujours présente. Toujours présente. Elle fait partie du bureau d'ailleurs.
Et c'est cette convivialité aussi qui est importante ?
Bah oui, ça.
Parce que même si on boit un coup avec modération.
Quelquefois modération, on a peut-être mieux le trouver, mais c'est oui, ça arrive.
On va dire quand même.
Ouais, mais c'est toujours avec modération, ouais. Mais c'est vrai que elles sont là, et puis elles font du bien, du bien, et puis les gens ils sont contents d'aller les voir pour commander un café ou un coca ou un verre d'eau.
Ouais. Et puis il y a toujours une petite baraque à frites qui traîne dans le coin, c'est important.
On arrive et je remercie Jean-Jacques Marissal de Quilhem qui vient. Ouais. Je crois que ça fait plus de 30 ans qu'il vient.
Un fidèle.
Et j'ai aussi quelqu'un que je connais, Jean-Pierre de Beauchep. Ouais. C'est parti un peu de la famille. Mais.
Putain.
Je peux pas. Dire à Jean-Jacques, non, ne viens plus parce que j'ai quelqu'un de la famille qui vient. Non, il y a un respect.
Bah oui.
Tu sais
souvenir les gens qui t'ont aidé à un certain moment
tout
de la
vie. Tout à fait. Tu n'as pas le droit de dire, non, il y a quelqu'un d'autre qui vient, je t'en veux plus. Ouais. Non, je suis pas...
Bon, on prend pas et on jette pas.
C'est pas mon principe. Non. Ils nous rendent service. On leur rend service jusqu'au moment où on voudra dire non, je peux plus, j'en fais plus. Ouais. On verra autre chose.
Ouais. C'est bilatéral et c'est ça qui est important.
C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais.
On parle de la vie, on parle de la convivialité et à la Saint-Sébastien, il y a aussi les remerciements. Et en te parlant de cela, je pense à une dame et à un monsieur qui se sont fait décorer dernièrement.
Tout à fait, oui.
Et j'étais présent.
Tout à fait.
T'as vu,
ouais, ça c'est.
Et ça, là aussi, c'était un gros moment d'émotion.
Ouais, parce que on se demandait, quand on a une médaille de 25 ans, tu demandes maintenant à la personne qui est médaillée, qui veut te médailler. Donc, avec mon ami Jean, le fameux 87 ans qui aura son diplôme de 60 ans samedi prochain, à Flêtre. Et on a dit, on va arranger un truc. Et j'avais dit, parce que Marie, j'avais demandé à Vanessa, qui c'est qui veut te médailler. Elle m'a dit, Marie, j'aimerais bien que ce soit Marie-Pierre.
Je dis, OK.
Mais on ne dit rien à personne. Je dis, OK, ça marche. Et pour Gaëtan, c'était moi. Donc, mais j'avais mon idée en tête. Donc, pour Vanessa, j'ai dit, Jean, tu prends la médaille. Mais au moment de la médailler, t'appelles Marie-Pierre. Marie-Pierre, elle était en train de servir au bar, disons la réception. Et elle se demandait quoi. Et puis, voilà, c'est un petit moment d'émotion. Et j'ai toujours, moi, je crois que plus je vieillis, plus je deviens émotif. Et quand
non, c'est parce que t'as un cœur tout simplement.
Ouais, mais c'est après. Bon, Marie-Pierre, ils ont chialé un petit peu tout ça.
Bah ouais.
Et je sais que quand j'ai voulu médailler Gaëtan, parce qu'il faut être médaillé pour pouvoir médailler quelqu'un d'autre. Hein.
D'accord.
Et Vanessa, elle venait juste d'être médaillée.
Donc elle pouvait se permettre.
Elle pouvait se permettre. C'est pour ça que et même je, Ils l'ont senti, j'arrivais plus à parler, donc tiens, prends la médaille et médaille ton frère, parce que c'était trop fort, l'émotion était trop forte.
Bah, quand j'ai fait mon reportage et qu'on a parlé de Francis, j'avais aussi les sanglots dans la...
Ouais, ça c'est...
Bah, moi je pense que c'est bien d'être émotif,
et d'avoir des sentiments. Mais moi je viens de plus en plus émotif, mais ça me dérange pas.
Non.
Après, pleurer c'est pas grave ça.
Non, bah non.
Pas grave,
quand on est petit et qu'on fait un rôle, tout le monde dit bravo. Quand on est plus grand, on nous offre des roquets, on se fait attraper. Et quand on est petit, on nous dit un homme, ça pleure pas. Ben si, on peut pleurer.
Ouais, non,
c'est un système de cocotte minute.
Bah oui, c'est vrai que cette année, et manque de bol, l'année dernière, on a perdu Francis, cette année, on a perdu Joël, on a perdu deux copains du même âge, mon âge. Donc c'est vrai que dans ta tête, tu dis tiens, c'est qui le prochain
hein? Ouais, bah oui.
C'est ça.
Comme je dis toujours, moi je suis plus proche du déambulateur que du trotteur.
Vaut mieux en rire, mais vaut mieux pas en avoir besoin de ce truc-là.
Pas vraiment.
Voilà.
Vous avez été d'une certaine façon, je vais dire, gâté par la ville de Cassel. Parce que vous avez eu une nouvelle perche qui, on va dire, est magnifique.
J'ai
presque pensé au début que c'était un nouveau mot pour l'antenne de
Radio Stéphane. Mais il y a eu des trucs. Je me souviens, quand Domi, il m'a appelé, manque de bol, j'étais à l'hosto.
Ah.
J'étais à l'hosto pour une maladie assez grave. Et Domi, il m'appelle, il me dit j'ai un boulot pour toi. J'ai un boulot pour moi. Il dit attends, et en ce moment, il faut pas trop en parler. J'ai dit non. On a passé le conseil municipal hier, et puis ils ont voté le budget pour une perche parapluie. Tu dois trouver un endroit pour la mettre. Alors là, le sourire jusqu'aux oreilles.
Hein. Ah bah oui.
Tu m'étonnes. Hein, et donc, on a trouvé l'endroit. Beaucoup de gens ont dit tiens, c'est près de la route. Bon, on a 18 mètres de la buvette, 18 mètres de la route, mais c'est un parapluie. Vrai que le seul gars qui a raté le parapluie, je me souviens, c'est notre fameux Jean qui sera médaillé. Et puis c'est passé à 1 ou 2 mètres d'un vélo. C'est des bons souvenirs, c'est des souvenirs qui. Tant qu'il n'y a pas de
dégâts. Tant qu'il n'y a pas de dégâts, c'est pas grave.
C'est des souvenirs qui te marquent, ça.
Oui. On parlait tout à l'heure au début d'émission qu'il y a une très bonne entente entre tous ces gens de guide des archers, mais il y a aussi une bonne entente avec nos amis flamands belges, même en dehors des flamands.
Et nous, on a quand même un sociétaire qui vient du Limbourg.
Ouais, c'est quand même.
Qui vient de la... je vais le nommer. Hein, c'est René Stella. Salutz.
Ouais.
Mais on dit toujours Stella parce qu'il adore la bière, c'est la Stella.
Ah ouais.
Voilà.
Il aime pas la Jupiler. À voir avec modération.
Ça va encore. Mais il vient tout le temps en tirant en coupe. Il faisait 160 km pour venir tirer en coupe le soir et repartir le soir. C'est une passion, lui. Et un des seuls qui tire encore avec un arc ancien, en fibre de verre et des flèches en bois.
Bah, dis donc.
Et maintenant, comme des problèmes de santé, un bâton. Mais sinon, un bâton pour soutenir son arc. Mais il est toujours là. 80 ans, c'est aussi... c'est ça.
Ouais. On pense à Jean aussi.
Et Jean, 87. Hein, ça c'est 87, le 30. Le 30 août, le même jour que Francis.
Ah bah dire.
Tu vois,
Et qui a toujours le sourire, d'ailleurs.
Et Jean, lui, en forme tout le temps.
Ouais.
Tout le temps en forme.
Et c'est ça qui est formidable.
Il va nous faire un centenaire, lui.
Ouais, bah, faut espérer.
Bah, j'espère pour lui, ouais.
Le temps passe très vite quand on est en agréable compagnie. Nous étions en agréable compagnie. On va se quitter parce que l'émission est terminée. Merci d'être venu. Merci à Isa pour la technique.
C'était un plaisir.
On a passé un super bon moment.
C'était un plaisir et je vous remercie de m'avoir invité. Et je voudrais encore remercier la mairie de Cassel.
Eh ben, vas-y, faut pas hésiter.
Alors, un grand merci à la mairie, au conseil municipal, à tout le monde, parce qu'ils sont toujours là quand on fait quelque chose.
Voilà.
Merci.